Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Studio Zef en direct pour une nouvelle saison de notre émission littéraire, Du vent dans les pages. Du vent dans les pages qui va durer cette année une heure et qui sera donc tous les lundis de 14h à 15h. Alors cette année je vais redémarrer avec mes camarades de lecture toujours autant passionnés et qui ont bien voulu signer encore une fois pour cette année. J'ai nommé Anne et Catherine. Et ben merci à vous deux d'être mes compagnes de lecture encore une fois cette année. J'en suis ravie. Je vais tout de suite te donner la parole, Anne. Tu vas nous présenter un classique de chez classique.
Tout à fait, je vais vous parler de Guy de Maupassant.
Voilà, on t'écoute.
Alors, Guy de Maupassant était un écrivain météorique, puisque toute son œuvre qui l'a rendu célèbre s'est passée entre 1880 et 1890. C'était un gentilhomme normand, très ami de Gustave Flaubert et d'Émile Zola,
qui a fait partie des groupes de Médan. Son œuvre se compose de 6 romans qui sont très connus, comme Une vie, Belle amie, Pierre et Jean, mais surtout de 16 volumes, de 16 recueils de nouvelles. Et le plus célèbre, c'est La Maison Tellier. Je vais donc vous parler de La Maison Tellier. Alors, La Maison Tellier, c'est l'histoire, c'est la description d'un bordel qui se trouve dans la nouvelle à Fécamp, mais qui en fait est repris d'un bordel qui a existé réellement, qui était à Rouen. Alors, l'histoire se passe donc à la campagne, dans une petite ville de province. La seule distraction pour les bourgeois du cru, c'est la maison de tolérance, qui n'est pas d'ailleurs, qui serait presque un salon de beuverie légère. On peut voir ça comme ça.
C'est joliment dit.
Ces messieurs viennent boire leur boisson favorite, qui n'est pas forcément la même à chaque fois. Et puis, ils montent avec leur chérie. Et puis, voilà. Après, ils vont rejoindre leur femme qui attendent tranquillement à la maison, puisque à l'époque, ces dames ne sortent pas. La maison Tellier est dirigée par une madame, que j'appellerai madame pendant toute l'explication, qui en fait est la fille d'un gros paysan de l'heure et qui, par les étonnements de la vie, a fait qu'elle a récupéré une maison de famille qu'elle a transformée en maison close avec son mari. Le mari est mort après avoir bu suffisamment pour ressembler à une outre. Et donc, madame règne sans partage sur 6 filles qui se partagent en 2 étages. Il y a l'étage des marins. Alors ça, c'est plutôt un niveau bas de gamme. Et puis, il y a l'étage des bourgeois. Alors, je vais vous lire quelques descriptions qui vraiment valent le coup.
Comme c'est si bien le faire, Maupassant.
Ah, tout à fait, tout à fait. Une écriture fine, ciselée et extraordinaire. Madame, familière avec les clients, ses amis, ne quittait point le salon et s'intéressait aux rumeurs de la ville qui lui parvenaient par eux. Sa conversation grave faisait diversion aux propos sans suite des 3 femmes. Elle était comme un repos dans le badinage polisson des particuliers ventrus qui se livraient chaque soir à cette débauche honnête et médiocre de boire un verre de liqueur en compagnie de filles publiques. Le personnel était restreint. On avait tâché que chacune d'elles fût comme un échantillon, un résumé du type féminin, afin que tout consommateur pût trouver là, à peu près du moins, la réalisation de son idéal. Fernande représentait la belle blonde, très grande, presque obèse, molle, fille des champs dont les taches de rousseur se refusaient à disparaître, et dont la chevelure filasse, écourtée, claire et sans couleur, pareille à du chanvre peigné, lui couvrait insuffisamment le crâne. Raphaël, une Marseillaise, roulure des ports de mer, jouait le rôle indispensable de la belle juive, maigre, avec des pommettes saillantes plâtrées de rouge. Ses cheveux noirs lustrés à la moelle de bœuf formaient des crochets sur les tempes. Ses yeux eussent paru beaux si le droit n'avait été marqué d'une taie. Son nez arqué tombait sur une mâchoire accentuée, pardon, sur une mâchoire accentuée où deux dents neuves en haut faisaient tache à côté de celle du bas qui avait pris, en vieillissant, une teinte foncée comme les bois anciens. Rosa Larosse, une petite boule de chair tout en ventre avec des jambes minuscules, chantait du matin au soir, d'une voix éraillée, des couplets alternativement grivois ou sentimentaux, qui lui permettaient de raconter des histoires interminables et insignifiantes, ne cessant de parler que pour manger et de manger que pour parler. Les deux femmes du rez-de-chaussée, Louise surnommée Cocotte et Flora dite Balançoire parce qu'elle boitait un peu, l'une toujours en liberté avec une ceinture tricolore, l'autre en espagnol de fantaisie avec des sequins de cuivre qui dansaient dans ses cheveux carottes. Pareil à toutes les femmes du peuple, ni plus laides ni plus belles, vraies servantes d'auberge. Une paix jalouse, mais rarement troublée, régnait entre ces cinq femmes, grâce à la sagesse conciliante de madame et à son intarissable bonne humeur. Alors, que se passe-t-il ? Donc, un soir... ces messieurs viennent pour boire leur verre de liqueur quotidien. La lanterne rouge à la porte est éteinte. Les portes sont fermées.
C'est une vraie maison close.
C'est une vraie maison close
pour le volet de la bouche.
Sans personne. Alors on entend tambouriner à la porte du bas. Ce sont les marins en goguette qui n'y trouvent pas leur compte. Et ces messieurs se posent des questions. Que s'est-il passé ? Alors, en fait, madame a un frère qui est menuisier de son état à 100 km de là, dans l'Eure. Et ce frère a une fille de 12 ans qui est la filleule de madame. Et elle va faire sa communion. Donc, on a invité madame qui est la marraine, en espérant qu'elle va bien vouloir la coucher sur son testament. On ne sait jamais, hein, ça pourrait être intéressant. Donc... voilà. Alors, comme la fillette allait avoir 12 ans et faisait cette année-là sa première communion, le menuisier saisit cette occasion d'un rapprochement et écrivit à sa sœur qu'il comptait sur elle pour la cérémonie. Les vieux parents étaient morts. Elle ne pouvait refuser à sa filleule. Elle accepta. Son frère, qui s'appelait Joseph, espérait qu'à force de prévenance, il arriverait peut-être à obtenir confier un testament en faveur de la petite, madame étant sans enfant. La profession de sa sœur ne gênait nullement ses scrupules, et du reste, personne dans le pays n'en savait rien. On disait seulement en parlant d'elle, « Madame Tellier est une bourgeoise de Fécamp », ce qui laissait supposer qu'elle pouvait vivre de ses rentes. De Fécamp à Virville, on comptait au moins 20 lieues et 20 lieues de terre pour des paysans sont plus difficiles à franchir que l'océan pour un civilisé. Les gens de Virville n'avaient jamais dépassé Rouen. Joseph invite sa sœur et sa sœur lui dit « Oui, mais c'est pas possible, ça, je peux pas laisser la maison toute seule avec les filles, les clients, enfin ma clientèle. Bon, bah, amène tes filles. » Et donc voilà le régiment qui monte dans le train et qui arrive à Virville. Et naturellement, c'est fatigant, 20 lieues, ils n'ont pas l'habitude, il fait chaud dans le train, elles sont dépoitraillées, enfin, on imagine tout à fait le spectacle. Bien, donc le spectacle était extraordinaire, excusez-moi, je finis par bafouiller.
Pas de
et,
problème.
Donc ces dames sont allées s'habiller et les parents, en tenue de fête, avec une physionomie gauche et des mouvements inhabiles de corps toujours courbés sur le travail, suivaient leur mioche. Les petites filles disparaissaient dans un nuage de tulle neigeux, semblable à de la crème fouettée, tandis que les petits hommes, pareils à des embryons de garçons de café, la tête encollée de pommade, marchaient les jambes écartées pour ne point tacher leurs culottes noires. C'était une gloire pour une famille quand un grand nombre des parents venus de loin entouraient l'enfant. Aussi le triomphe du menuisier fut complet. Le régimentelier, patronne en tête, suivait Constance, et le père donnant le bras à sa sœur, la mère marchant à côté de Raphaël, Fernande avec Rosa, et les deux pompes ensemble, la troupe se déployait majestueusement comme un état-major en grand uniforme. L'effet sur le village fut foudroyant. Alors vous imaginez un petit peu cette troupe entrant dans l'église, s'installant au premier rang, dans les bancs les plus intéressants, derrière les petits communiants. Et le prêtre entre, commence sa messe et arrive le moment du sermon. Et naturellement, il évoque les anges, il évoque la bonté de Dieu, il évoque... Et les filles de madame se mettent à avoir la larme à l'œil, et de plus en plus. Et Rosa, en particulier, qui est la plus expressive, se met à sangloter sur son banc. Les autres, la voyant sangloter, ont l'œil humide. Et donc... Toute la clique se met à pleurer et à se lamenter littéralement. Et alors le curé est en joie. Il n'a jamais eu devant lui
une assistante aussi
expressive. D'ordinaire, les paysans sont là, engoncés dans leurs vêtements du dimanche, en général complètement abrutis. Et là, pas du tout. La cérémonie se passe. Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a la fête. Et alors là, c'est les réjouissances. Les filles se dépoitraillent. Enfin bon, ça danse comme jamais dans le pays. On n'a jamais vu ça. Enfin bon. Et naturellement, les hommes ont les yeux qui se mettent à briller. Les femmes ont les regards qui commencent à se froncer. Enfin bon. Et tout le monde se saoule. Bien. La nuit se passe et le lendemain, il faut rentrer. Et donc, le menuisier, lui, il n'a pas du tout envie de voir Rosa partir. Donc, il essaye de la sauter jusque dans la voiture qui l'amène au train. Sa sœur est obligée de lui flanquer une claque pour lui apprendre à vivre. Et ces dames rentrent à Fécamp et les bourgeois, le lendemain soir, à leur grand bonheur, voient la lanterne allumée. Ils peuvent entrer dans la maison Tellier.
Merci Anne pour cette narration haute en couleur.
Je trouve que...
Haute en couleur rouge.
Oui, je trouve que c'est tellement... c'est tellement bien écrit.
Oh là là, oui.
C'est fin, ce sont des adjectifs choisis. Et en 5 pages, on a le spectacle. Quoi.
Ouais, tout à fait, c'est un vrai spectacle, un festival à chaque page, ouais, en effet. Merci Anne. Catherine, sans transition.
Eh ben, on va changer de monde, et pas tout à fait de siècle, mais presque. Alors, comme Véronique m'avait dit, toi, tu traites plutôt des romans d'actualité.
Ouais, je t'ai pas dit ça comme ça.
Pas de BD. Enfin, voilà, c'était à peu près ça.
Oh là là,
donc,
oh la mauvaise.
Elle a pas compté sur mon mauvais esprit. Donc, je vous ai pris un roman qui a été écrit, en fait, fin 18e, pour sa première version, et publié, alors je dis pas de bêtises, en 1813, donc début 19e. Alors, il s'agit d'un roman d'une femme de lettres anglaise, Jane Austen, et qui s'appelle Orgueil et Préjugé, Pride and Prejudice. Alors, je vais vous dire la vérité, c'est que, à première vue, quand on en parle, tout le monde a lu ça, plutôt les femmes d'ailleurs.
C'est vrai.
Et ben, je ne l'avais jamais lu, parce que j'imaginais un petit truc à l'eau de rose, enfin bref, ça ne m'attirait pas vraiment.
Jamais, Jane Austen. Il n'y a pas moins à l'eau de rose.
Bien sûr, pas du tout ça. C'est une histoire... En fin de compte, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est une histoire de jeune fille qui cherche à se marier, de cour, de jalousie, d'attirance. Il y a évidemment tous ces aimants-là, mais dans un contexte historique et social bien particulier, dans une Angleterre encore...
Corsetée,
guindée, qui est au moment du roman en guerre, en plus, qui donne une dimension... Il y a beaucoup de militaires, très attirants, qui traînent, voilà. Et dans cette... ce qui est intéressant, c'est qu'elle analyse... Enfin, pour vous donner situé, ça se passe dans une famille de la gentry. Attention, nous sommes dans un certain monde. Mais dans ce certain monde, il y a les petits... et les grands. Et les petits et les grands ne se mélangent pas. Et donc la famille dont il est question, la famille Bennett, monsieur et madame Bennett, madame Bennett a 5 filles. Vous imaginez le souci. Son rêve, évidemment, c'est de caser bien ses 5 filles. Et pour caser bien ses 5 filles, il faut qu'elles sortent, il faut qu'elles aillent danser, il faut qu'on les montre. Et si possible, à des messieurs un peu plus riches. Alors, il faut savoir aussi que les règles testamentaires sont très bien particulières, puisque M. Bennett, n'ayant pas eu de fils, ses filles et sa femme, à son décès, n'héritent quasiment de rien. Ça repart à un neveu un petit peu lointain. Donc, elles savent très bien qu'elles vont se retrouver avec peu de rentes, puisque les gens vivaient de leurs rentes. On est dans un monde, malgré tout, où tout le monde vit de ses rentes. Et on ne jauge pas un homme par, je ne sais quoi, ses qualités, etc. Mais on dit, il vaut 3000 livres de rente, 2000 livres de rente, ou plus, si affinité. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'idée de Jane Austen, c'est vraiment une présentation de la société de son époque. Et c'est aussi, alors c'est pas une révolutionnaire, hein, ne remettons pas, ne modifions, mais c'est une invitation à s'interroger sur un ordre social plutôt qu'une réflexion sur l'injustice, c'est-à-dire la condition des femmes, le mariage, qui est la seule solution pour les jeunes filles, enfin un des rares solutions qui s'offrait pour les mettre à l'abri du besoin. Et son idée, hein, Pride and Prejudice, c'est qu'il est honteux de se marier sans amour quand même, elle plaide pour ça alors que c'était presque un principe de base, et le respect de soi doit prévaloir sur la recherche de l'intérêt. Et son personnage principal, donc Elizabeth, c'est la deuxième fille des Bennet, donc sera notre fil conducteur, sera l'héroïne de l'histoire, et elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, et dans un monde où la femme est traitée comme un enfant, comme une mineure, elle se considère comme adulte, et elle le revendique. Alors, je vais vous lire un petit passage. Ça commence comme ça. Il est universellement admis qu'un célibataire nanti d'une belle fortune a forcément besoin d'une épouse. Si mal connus que soient les sentiments ou les opinions d'un tel homme, dès lors qu'il paraît dans une certaine société, cette vérité est si bien ancrée dans l'esprit des familles du voisinage qu'il est considéré comme propriété légitime de l'une ou l'autre de leurs filles. Et donc va s'installer dans leur voisinage, justement dans une très belle demeure, un jeune homme d'un haut niveau social, riche, ce qui ne gâte rien, et qui sera présenté évidemment aux filles Bennet et qui aura un faible pour l'aînée des filles Bennet. Malheureusement, ce jeune homme a un ami, M. Darcy, qui, voyant la mésalliance que pourrait faire son ami, fait tout pour le dissuader d'épouser cette jeune femme. Donc, évidemment, je vous passe les péripéties. Et pour Elizabeth, eh bien, elle découvre la manipulation ou ce qu'a fait M. Darcy, qui a évidemment rendu malade sa sœur. Donc vous avez toutes ces péripéties. Alors pour vous donner quand même quelques exemples, parce que ce qui est intéressant, c'est que Jane Austen, d'abord elle a une écriture, une très belle écriture, elle a l'art du portrait. Elle nous fait des portraits superbes des filles, de la mère qui est malheureusement pour les filles haute en couleur et plutôt une tache dans le grand monde, du père qui est plein d'humour et d'ironie mordante, mais aussi d'autres personnages, disons plus secondaires, qui sont dont le neveu qui devrait hériter de leur propriété, de leur bien, qui est un personnage haut en couleur. Donc on voit toute cette gentry campagnarde qui est là en train de tout leur cheminement pour s'assurer la sécurité économique et le statut social. Alors Elizabeth, comme elle est bien plantée dans son personnage, nous le verrons, je vais faire quelques petits extraits. Oh ben, ça va être très court. En fait, Elizabeth est d'abord demandée en mariage par le jeune homme qui va hériter, donc par son cousin, si je peux dire, qui va hériter. Et évidemment, ce monsieur est d'un ridicule fini. Enfin, il faut lire le portrait.
Il est visqueux.
Il est obséquieux, visqueux et complètement à la botte de la noble de sa région. Alors donc, il vient auprès d'Elisabeth pour lui déclarer sa flamme. Enfin, ce qu'il imagine être sa flamme. Et il lui dit... D'abord, il précise bien qu'il avait l'autorisation de la mère pour lui parler. Aussitôt entré dans cette maison, où presque je vous choisis pour être la compagne de ma vie, mais avant d'être emporté par les sentiments que ce sujet m'inspire, peut-être est-il opportun de vous exposer les raisons qui m'engagent à me marier. À l'idée que M. Collins, si solennel, si maître de lui, pût être emporté par ses sentiments, Elizabeth fut si près de rire qu'elle ne sut mettre à profit le bref répit qu'il lui laissa pour tenter de l'interrompre à nouveau. Aussi poursuivit-il, les raisons qui m'engagent à me marier sont premièrement que je considère bon pour tout ecclésiastique, lorsqu'il est comme moi à l'aise, de donner l'exemple dans sa paroisse en recevant ce sacrement. Deuxièmement, que le mariage ajoutera beaucoup, j'en suis convaincue, à mon bonheur. Et troisièmement, peut-être aurais-je dû en parler au plus tôt, qu'il m'a été fortement conseillé et recommandé par la très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma collatrice. Donc cette fameuse mademoiselle de Bourg, qui, en fin de compte, qu'il mène par le bout du nez.
Tout à fait. Oui.
Donc voilà la demande en mariage. Vous imaginez comment Elisabeth a reçu cette demande en mariage, qui pourtant a un parti tout à fait correct. Donc Madame Bennett, voyant que sa fille n'a pas l'air décidée à épouser ce parti, parce qu'elle voyait déjà deux filles casées, dit à son mari « Monsieur Bennett, vite, on a besoin de vous, la maison est sans dessus-dessous. Il faut forcer Lizzie à épouser Monsieur Collins. » car elle assure qu'elle n'en veut pas. Donc, Monsieur Bennett a décidé d'aller voir sa fille. Faites-la descendre, je vais lui dire mon sentiment. « Approche, mon enfant !» s'écria son père dès qu'elle parut. « Je t'ai fait appeler pour une affaire d'importance. J'apprends que Monsieur Collins t'a demandé en mariage. Est-ce vrai ?» Elisabeth répondit que oui. « Très bien. Et tu as refusé ?»« Oui, monsieur. Très bien. Nous en venons maintenant à l'essentiel. » « Ta mère tient à ce que tu acceptes. C'est bien cela, madame. »« Oui, sinon je ne la reverrai jamais. » »« Un choix cruel s'offre à toi, Elisabeth. De ce jour, il te faut devenir étrangère à l'un de nous. Ta mère ne te reverra jamais si tu n'épouses pas Monsieur Collins. » Et si tu l'épouses, c'est moi qui refuserai de te revoir. Donc vous voyez qu'elle a quand même de l'humour en plus.
Voilà, oui, et comme elle adore son père, il n'y a pas de discussion.
Voilà, alors bon, je crois que je n'ai plus tellement de temps.
Non,
mais
désolé,
voilà, alors, en plus, c'est vraiment un roman avec des rebondissements. Ouais. Enfin, il y a vraiment... Vous passez un super bon moment. C'est
exactement.
Bien écrit, les personnages sont cocasses. Il y a une démarche historique qui est intéressante pour nous avec le recul. Donc franchement, je vous le conseille. Je vais juste pour finir une petite
vite,
phrase
Catherine,
pour dire comment avait été reçu le roman, si je le retrouve, au moment où il est sorti. Ça, j'ai peut-être pas retrouvé la petite phrase d'un certain critique qui a dit, un admirateur, il a déclaré « J'aimerais, parce que évidemment, c'est une publication anonyme, une femme ne pouvait pas publier. Un animateur déclara « J'aimerais savoir qui l'a écrit, car il est beaucoup trop intelligent pour être l'œuvre d'une femme.
» Excellent.
Merci beaucoup,
excellent.
Catherine. En plus, tu as entre les mains, je dis ça pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir, mais c'est donc édité aux éditions de la Pléiade.
Voilà, tout Jane Austen est à la Pléiade, mais vous pouvez le trouver en poche, vous le trouvez dans les librairies, dans les bibliothèques, partout. Donc, il n'y a aucune excuse.
Merci, on se retrouve tout de suite.
Du vent dans les pages, sur Studio Zef.
Voilà, du vent dans les pages, et bien ça continue avec Anne. Tu vas reprendre la parole pour nous présenter cette fois-ci. Alors là, on passe à toute autre chose.
Tout à fait.
Donc, un policier,
exactement.
Une policière, je ne sais pas.
C'est un policier.
C'est un inspecteur.
C'est un roman historique.
Ah, c'est
en
un
même
roman
temps.
Historique,
C'est le premier roman policier écrit par Ken Follett.
Mm-hmm.
Alors Ken Follett, il est surtout connu par Les Piliers de la Terre, qui raconte l'histoire de la construction d'une cathédrale. Un livre absolument magnifique à mettre dans toutes les mains.
Complètement.
Mais il a aussi cette formidable façon d'écrire qui est le roman policier, facile à lire, mais en même temps prenant, haletant, on démarre, on n'arrive pas à le lâcher. Bon, alors ce premier volume s'appelle « L'arme à l'œil ». Il est basé sur des faits vrais, à savoir l'opération Fortitude. Alors, l'opération Fortitude, c'est toutes les démarches qu'ont fait les Alliés en 1944, pour arriver à persuader les Allemands qu'ils allaient arriver dans le Pas-de-Calais. Et pour ça, il y avait en particulier une armée fantôme qui avait été installée dans le sud de l'Angleterre, au sud de Londres, et mais avait été dans le détail le plus complet, avec des chars en carton-pâte, des tentes, des maisons, des voitures, des soldats qui arpentaient exactement, qui réparaient des voitures qui n'existaient pas. Enfin, c'était formidable. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passait en Allemagne? Il y avait ceux qui étaient persuadés que le débarquement, puisqu'on était sûr que ça allait arriver, que le débarquement allait se faire en Normandie, Rommel en particulier, et puis le haut commandement en général. Et puis, de l'autre côté, il y avait ceux qui étaient persuadés que ça allait arriver dans le Pas-de-Calais. Et là, il y avait deux personnages très importants qui étaient Hitler et son astrologue. Donc, que faire pour pouvoir départager les avis ? L'amiral Canary a activé un agent dormant qu'il avait depuis 5 ans en Angleterre, qui était baptisé Dean Addle, l'aiguille, parce que son arme favorite était un stylet. Donc ce garçon s'était créé deux identités. Il était agent administratif dans une petite ville la semaine, et il était papa chez maman dans une autre ville le week-end. Dans les deux cas, il avait une radio, il avait... Bon. Un beau jour, lui arrive un message codé lui disant de se rendre dans un endroit précis pour prendre un message du haut commandement. Et donc le message en question lui dit « Il faut absolument que vous vous rendiez dans le sud de l'Angleterre pour voir ce qu'il en est de cette énorme armée qui est dirigée par le général Patton. Et quand vous saurez ce qu'il en est, un sous-marin vous attendra à partir de, tous les vendredis et tous les lundis, à partir de la semaine prochaine, du côté d'Aberdeen. » Alors, Aberdeen, pour ceux qui ne connaissent pas l'Angleterre, ça se trouve au nord de l'Écosse. Donc, voilà notre espion qui part à la recherche de cette information. Et c'est là que le livre commence. Parce que d'abord, il va être obligé de tuer sa logeuse qui, prise d'un appétit sexuel sans précédent, enfonce la porte de sa chambre pour s'offrir à lui dans toute sa splendeur. Mais il est en train de taper sur son appareil radio, et donc il est obligé de la supprimer parce que c'est la catastrophe. Et donc, il s'enfuit et il part à travers le sud de l'Angleterre pour aller chercher cette information qu'il trouve, bien entendu, tout en semant des morts sur son passage, et toujours les mêmes, toujours des gens qui sont trucidés d'un coup de stylet entre les côtes. Et en face, nous avons un professeur d'histoire. Nous avons Ken Follett en embuscade, un professeur d'histoire médiévale spécialisé dans les cathédrales. Vous voyez, suivez mon regard.
D'accord.
Et cet homme est en même temps spécialiste du chiffre. Et donc, le MI5 l'a recruté pour diriger un département de recherche, de décryptement des messages des ennemis. Et donc, il suit à la trace cet homme, et chaque fois qu'ils sont sur le point de l'attraper, l'autre, comme une anguille, arrive à passer entre les mailles du filet. Et pendant ce temps-là, nous montons à travers l'Angleterre, puis à travers l'Écosse, puis nous arrivons à Aberdeen, où il y a une tempête absolument féroce. Il a le renseignement qu'il veut, et il veut atteindre le sous-marin. Il prend un bateau de pêche et la tempête le jette sur une île qui est juste entre la côte et le sous-marin.
Voilà. Tu ne la racontes pas la fin, hein, non ?
Je m'arrête là.
Tu ne racontes pas la fin, je te vois partir là.
Ça tombe bien, j'allais m'arrêter. Bon. Parce que si je vais plus loin, ça n'est pas drôle.
Voilà.
Donc, ce livre est écrit avec une précision, et c'est haletant, c'est prenant, on est dedans carrément, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'histoire de ce personnage, mais en même temps, c'est la vie des Anglais à cette époque-là, le blitz, la façon dont les femmes allaient à l'usine et les hommes étaient recrutés d'office dans l'armée, et c'était impressionnant, prenant. Franchement, C'est un livre à lire, ouais. C'est une leçon d'histoire, parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la résistance anglaise pendant la dernière guerre, c'est vraiment extrêmement bien expliqué. Et en même temps, quel auteur ?
Oui, oui, oui. L'arme à l'œil de Ken Follett.
L'arme à l'œil de Ken Follett, ça date de 1978, mais c'est dans le livre de poche. Il n'y a pas très longtemps que ça a été réédité.
Et on en profite pour dire qu'on peut lire tout Ken Follett, quasiment. Hein,
pour ainsi dire, hein, le code Rebecca, voilà. Le dossier Odessa.
Relire plusieurs fois les piliers de la Terre, parce que c'est de toute façon, il y a
exactement
tellement de détails qu'on ne se souvient pas de tout.
Tout à fait, suivi d'un monde sans fin. Vraiment, voilà. Un auteur à lire de toutes les façons.
Ouais, prolifique, mais très intéressant.
Exactement.
Merci beaucoup, Anne. Catherine.
On va changer de monde.
Alors,
hein.
Carrément. Carrément. Mais je suis bien contente parce que...
Éclectique, polyvalent. Voilà.
Ouais, c'est bien.
Mais normalement, on a le droit d'aimer tout.
Exactement. Voilà.
Et aussi, on a le droit de ne pas aimer certaines choses.
Voilà.
Et ben voilà. Donc, je ne vais pas faire comme d'habitude, puisque aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une BD incroyable, une BD à la radio.
Ah,
faut le faire
ça me fait
quand
bien
même.
Plaisir.
Je ne vais pas vous lire les images. Alors, on va s'amuser. Tiens, je vais lire les premières pages, comme ça, ceux qui savent découvriront. Je m'appelle Félix Ducharme et je suis née ici, à Notre-Dame-des-Lacs, au Québec. Mes parents s'occupaient du magasin général. C'est dans cette maison-là que j'ai grandi. À l'âge de 25 ans, j'ai été visiter ma tante Zelma au lac Saint-Jean. J'en suis revenue avec Marie Coutu, une belle fille de Chicoutimi, de 5 ans ma cadette, que j'ai mariée un beau jour d'été. C'était il y a 20 ans de ça. Et puis ce soir, ben je suis mort. Ah, ça commence fort.
Alors.
T'as pas pris l'accent, mais...
J'ai pas osé. C'était presque ça. Hein.
Mais on dirait que c'est fait pour le prendre.
Oui, oui,
enfin,
oui,
pour ceux qui ont eu la chance de ne pas le lire, je les envie. Ah, vous allez voir, quand on lit ça, on a envie de prendre l'accent. Alors, pourquoi cette BD ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une histoire passionnante.
Alors, déjà, on va dire le titre.
Alors, quel est le titre ? Ça s'appelle Magasin Général. Cette BD a une particularité, en fait, parce qu'elle a été dessinée à quatre mains, plutôt. Dessinée à quatre mains. Donc, c'est une série qui a été réalisée conjointement par Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Qui n'avait pas spécialement le même style.
Non.
C'était vraiment... on n'aurait jamais peut-être parié sur ce mariage avant qu'il n'ait lieu. Alors, ce sont deux BDistes de chez nous. Donc, pourquoi ils sont partis au Québec ? En fait, dans l'histoire, c'est que c'est Loisel, le premier, qui a l'habitude de bouger et qui a quitté sa Touraine et est parti s'installer au Québec. Et une fois au Québec, on lui a, au bout de quelques temps, proposé d'enseigner. Je crois à l'université, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et puis, il n'avait pas envie, donc il en a parlé à son copain Jean-Louis Tripp, qui a dit « D'accord, donc Jean-Louis Tripp est venu au Québec ». Et tout d'un coup, Jean-Louis Tripp a dit « Mais on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble ». Et quand Loisel est parti pour le Québec, il s'était mis d'accord avec son... Enfin, même avant d'ailleurs, ils avaient un projet d'écrire une sorte d'aventure comme ça dans un village. Mais ils pensaient à la France, ils ne pensaient pas du tout au Québec. Donc, ils se sont dit « Mais pourquoi pas imaginer ça, mais dans un petit village au Canada ?» ça se passe dans les années 20, ça débute dans les années 20, dans un petit village fictif, bien sûr, de 200 âmes, dans vraiment un petit village, vous imaginez l'hiver, bien isolé de tout. Jean-Louis Tripp et Régis Loisel se partagent le dessin. En fait, ils sont très différents. Il y en a un qui n'a pas peur de la page blanche et qui aime se lancer. L'autre est moins à l'aise avec la page blanche, mais adore ajouter des détails et tout. Donc, en fait, ils sont parfaitement complétés. Mmh. Et ce qui est amusant sur le plan technique, parce que je pense qu'il y en a qui s'intéressent à la technique, c'est que chaque tome, et juste au début, il y a deux planches. La planche telle que la réalise Loisel et la planche reprise par Tripp. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment la technique de travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'idée originale donc, est de Régis Loisel, mais il y a une adaptation en français québécois, parce que même dans le peu que j'ai lu, on dit bien, il y a certaines expressions, vous voyez bien, qui ne sont pas de chez nous, mais il y en a bien plus que ça. Là, je vous ai lu le plus facile.
Ah, oui, complètement.
Donc, il y a un adaptateur québécois qui est évidemment un Québécois. Donc, ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Alors, je vous ai lu le début. En fait, on voit la mort de celui qui tient le magasin général. Le magasin général, c'est le magasin. Il n'y en a qu'un dans ce village. Ça veut dire, vous enlevez le magasin général, eh bien, beaucoup de choses s'écroulent. Donc, celui qui tenait le magasin vient de mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est Marie, sa veuve, qui va reprendre Marie Ducharme, qui a la quarantaine, et sans enfant, et qui est toute seule, et qui va essayer de reprendre. Mais elle a beaucoup d'état d'âme, elle hésite. Enfin, c'est assez complexe. Donc, elle fait peur à tout le monde, parce que si elle ne reprend pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle va reprendre, et elle va s'occuper, et puis c'est ce commerce, qui est le point de passage de tous les villageois, qui va nous tenir le fil de l'histoire. Alors, ce qui est merveilleux, je parlais des portraits de Jane Austen, mais alors là, dans Magasin Général, vous avez des portraits fabuleux. Ouais. Vous avez tout. Vous avez un curé existentialiste qui se pose des tas de questions sur l'existence de Dieu. Donc, c'est un personnage. Alors, il faut savoir justement les deux autorités à l'époque. C'est le maire et le curé. Ouais. Le maire est parti. À un moment, on voit le maire disparaît. Et le curé, il a vraiment des doutes et il se met à quitter son église pour aller rejoindre un vieux en train de construire un bateau au milieu de la forêt. Donc le village se trouve un peu laissé à lui-même et ça va permettre à la fois une sorte d'explosion des personnages, libéralisation de certains, les femmes se mettent à oser certaines choses. Enfin voilà, il se met à y avoir une vie extraordinaire dans ce village. Et puis ce qui va être un deuxième déclencheur, bon, il y a tous ces personnages, il y a trois vieilles bigotes qui sont toujours en train de regarder qui radote sur tout. Il y a un jeune qui est qui semble un peu demeuré, mais qui s'avère un super cuisinier. Enfin voilà, donc il y a des personnages très haut en couleur. Mais il va y avoir dès le tome 2 un événement qui va orienter ou activer encore les changements. C'est qu'un personnage inconnu qui va débarquer dans le village, un monsieur bien, bel homme, on voit bien éduqué, très cultivé, qui va s'installer et qui va aider Marie dans son travail. Peut-être plus, mais on se pose beaucoup de questions
N'en
sur ce
pas
personnage.
Plus,
voilà, parce que c'est vraiment un personnage clé et qui va entraîner une longue histoire. Donc, je ne sais pas.
Ça va bouleverser. Oui, juste pour terminer, donc ça va bouleverser quand même l'ordre. Un petit peu tout le monde était bien installé quand même malgré tout dans cohabitation.
Ce qui est je trouve intéressant, c'est que donc ça se passe dans les années 20-30 puisque ça dure, une véritable fresque sociale, pareil, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. Moi, j'ai trouvé que c'était... je crois que c'est pas moi qui l'invente, c'est Loisel qui le dit lui-même. C'est vraiment... L'idée, c'était de faire une fable rurale truculente, un peu dans l'esprit des films de Frank Capra. Et résultat, on a un récit, mais euphorisant. On sort de là le cœur léger. On retrouve la confiance en l'humanité. Heureux ceux qui ne l'ont pas lu, parce que vous avez un avantage sur ceux qui l'ont lu quand c'est sorti. C'est que c'est sorti sur presque 10 ans. Vous avez les 9 d'un coup devant vous, mais c'est génial, vous en avez de la chance.
Ah oui, alors là c'est une super idée, merci Catherine.
Alors je rappelle, Magasin Général, donc c'est en 9 tomes, publié chez Casterman, les auteurs sont Loisel et Tripp.
Merci à toutes les deux. Vous restez avec moi jusqu'à la fin de l'émission.
Bien sûr.
D'accord. On fait une petite pause musicale et je vous annonce tout de suite qu'après la musique, vous allez écouter ou réécouter, si vous étiez à l'antenne donc l'année dernière, notre amie Alice, qui fait des émissions aussi sur Studio Zef, a produit des chroniques sur des essais. Sur des essais souvent qui traitent de problèmes sociétals et également économiques. Et cette fois-ci, elle va nous présenter Les champs du possible d'André Pochon, qui parle d'agriculture durable. C'est un peu dans l'air du temps, n'est-ce pas? À tout à l'heure.
France des droits. Les morts vont bientôt brûler les vieilles cités, les siècles des rois. Les morts vont tout dévorer, mais sans déconner, tu te fous de moi, ma France. Tu me fatigues, tu me fatigues, tu me fatigues, tu me fatigues, ma France. Tu me fatigues, tu me fatigues, tu me fatigues, tu me fatigues. Paris sera jour futile, défile et défile, champagne et vodka. Et les autres ont disparu, Paris n'entend plus la colère d'en bas. Les marchands de sublimes, la plata habile, récoltent les voix. Tombe le chavir aux marines, la rougeur sanguine salira tes doigts.
Dans les pages sur Studio Zef.
Il est question d'agriculture aujourd'hui avec un livre qui n'est pas vraiment récent puisqu'il est paru en 1998. Il s'agit du Champ des possibles, plaidoyer pour une agriculture durable d'André Pochon. Alors, André Pochon, c'est un paysan breton qui s'est réveillé dès le début des années 60 en pratiquant l'agriculture durable. Et comme il a vu que ça fonctionnait très bien, il a pris son bâton de pèlerin pour tenter d'évangéliser le monde agricole et le convertir aux bienfaits de l'agriculture propre. Alors, il l'avoue lui-même, hein, au début, il s'est converti non pas par militantisme environnemental, mais par pragmatisme. Il s'est tout simplement rendu compte qu'en nourrissant ses vaches à l'herbe plutôt qu'aux compléments protéiniques et en éliminant les intrants chimiques, bah, il faisait de sacrées économies et il augmentait ses marges. Après, il est devenu paysan écologiste militant. Bref, nous sommes en 98, à la veille de la réforme de la PAC de 2000, et André Pochon revient sur 50 ans de politique agricole commune. Il explique comment l'Europe, pour subvenir aux besoins alimentaires d'après-guerre, a encouragé la production agricole par des aides directes, jusqu'à provoquer d'énormes excédents revendus à perte à l'étranger. Alors inutile de vous dire que cette surproduction provoquait une baisse des cours internationaux. Pour les pays subventionnés, bah, pas de souci. Mais pour les pays en développement, c'était la catastrophe. D'autant plus que les barrières douanières empêchaient l'import de denrées déjà présentes en Europe. Alors à propos de barrières douanières, justement, bah, elles n'étaient pas valables pour les produits absents sur le sol européen. Du genre du soja, par exemple. Ça tombe bien. Comme les Américains en avaient plein les silos, ils ont trouvé le filon et l'ont refourgué aux paysans européens. Qui se sont retrouvés à donner des tourteaux de soja à manger à leurs animaux plutôt que de l'herbe. Enfin bon, de toute façon, de l'herbe, il n'y en avait plus, puisqu'il valait mieux produire des tonnes de céréales ultra-subventionnées. Et puis, bah, comme le lait était subventionné aussi, il valait mieux le vendre aux laiteries que le garder pour nourrir les veaux ou les cochons. Donc, il fallait bien trouver des produits de substitution. André Pochon le dit tout net, ce n'est plus de l'agriculture, c'est de l'industrie. En 1987, le rapport McSharry fait le bilan de 16 ans de politique agricole commune. Eh bien, l'Union européenne a multiplié par 7 les subventions, mais le nombre d'agriculteurs a été divisé par 2. Leurs revenus stagnent ou diminuent. 80% des subventions sont attribuées à 20% des agriculteurs, qui plus est dans les régions les plus prospères, qui en ont le moins besoin. Alors, quand il est question de revoir la PAC en 1992, André Pochon y croit. Ça y est. Tout le monde a compris qu'il faut baisser les aides pour baisser la production, qu'il faut octroyer les primes compensatoires en priorité aux petits producteurs et aux régions les plus pauvres, et surtout qu'il faut les conditionner au respect de l'environnement. Mais là, allez savoir pourquoi, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Enfin bon, André Pochon, il a une petite idée quand même. Figurez-vous que la FNSEA, elle n'était pas vraiment emballée pour partager le magot avec les petits. Du coup, les primes compensatoires ont été attribuées aux plus gros producteurs céréaliers. De là, parler de lobby... Enfin bon, hop, c'était parti pour la course à l'agrandissement pour toucher les primes à l'hectare. Après 92, ce sont carrément 85% des aides qui vont à 20% des agriculteurs. en 1996, leur montant atteint la moitié de celui de l'assurance chômage. Alors, comme l'écrit Pochon, c'est quand même assez étonnant, des aides pour détruire autant d'emplois dans l'agriculture et pour polluer les sols. Parce que figurez-vous que si on conditionne les aides au respect de l'environnement, c'est l'industrie agricole chimique qui ira mal. Et la grosse menace, si vous faites ça, ça va détruire des emplois. Par contre, que la moitié des paysans aient disparu au détriment de la vie rurale ne semble poser de problème à personne. Juste avant la réforme de la PAC de 2000, Pochon écrit, je cite, « La valeur ajoutée du modèle productiviste est extrêmement faible. Hors subvention, elle est nulle, voire négative, malgré un chiffre d'affaires élevé. » Fin de citation. Mais il y croit encore. Il donne même ses recettes aux paysans, lui qui gagne sa vie avec son métier. Équilibrer l'élevage et la production végétale, assurer une rotation des cultures, cultiver des plantes adaptées au climat et non pas du maïs qui demande de l'irrigation, élever des animaux sur la paille plutôt que sur du béton où ils se blessent, nourrir les ruminants avec de l'herbe et investir raisonnablement dans du matériel. Du bon sens, quoi. Pour lui, une agriculture durable, c'est, je cite, « une agriculture qui préserve dans le long terme le sol, l'air, les paysages, qui permet de produire à moindre coût, donc avec le maximum de valeur ajoutée, et de ce fait, qui permet d'employer des paysans nombreux et prospères. » Fin de citation. Mais une agriculture durable, c'est une agriculture qui ne fait pas vivre les usines d'ammonitrate, de pesticides, de mécaniques agricoles, d'aliments du bétail. Tout ça sonne bigrement d'actualité, non ? Pourtant, je vous le rappelle, ce livre a été écrit il y a près de 20 ans, en 1998. Alors pour finir, je me contenterai de reprendre la conclusion d'André Pochon. Choisir son alimentation est désormais un acte politique.
Voilà, c'était la chronique d'Alice sur les champs du possible d'André Pochon. Alors, mesdames, ça va, vous êtes toujours là. Et donc, on s'achemine doucement vers la fin de l'émission. On a le temps. En tout cas, moi j'ai le temps de vous présenter vite fait un petit coup de cœur BD, comme je le ferai à chaque fois, un lundi par mois. En fin d'émission, donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon ami Damer de Derf Bagderf, qui est un auteur américain, qui a passé son enfance dans une petite ville de l'Ohio, située près de Cleveland. Et ce roman graphique, comme on dit, se passe au début des années 70. Il entre au collège, il fait connaissance de Jeffrey Dahmer, alors qui est un enfant plutôt solitaire, qui a un comportement très étrange. Les deux adolescents se lient d'amitié et ils font leur scolarité ensemble jusqu'à la fin du lycée. Alors, il se trouve que Jeffrey Dahmer deviendra l'un des pires serial killers de l'histoire des États-Unis. Il est arrêté en 91, puis condamné à 957 ans de prison pour une série de 17 meurtres. Donc, Dahmer était surnommé le cannibale de Millcourt. Alors pourquoi j'en parle, parce que quand j'ai lu ce roman graphique, alors j'ai lu les autres romans graphiques de Derf Bagderf, okay, c'est pas facile à prononcer ça, hein, et c'est un auteur qui est plutôt rock'n'roll, hein. Il était journaliste, il a commencé par être éboueur, il a vécu des choses plutôt drôles et plutôt pas faciles aussi également, mais c'est surtout qu'il a une vision, comme on dit, sans concession sur l'Amérique de ces années-là. Et en même temps, c'est sans concession, et en même temps, il retrace les faits, et il décrit cet adolescent avec vraiment beaucoup d'objectivité. Il ne juge pas, voilà. Il montre simplement comment il était au lycée. Et il y a un truc très très intéressant que je trouve, c'est que il, alors quelque part là, c'est peut-être aussi il tire la sonnette d'alarme, mais est-ce que les adultes étaient présents avec tous ces adolescents qui étaient dans une ville paumée au fin fond des États-Unis, souvent livrés à eux-mêmes, et tous ces petits détails qu'on voit dans le roman graphique où il y a peut-être une petite annonce de ce qui va se passer. Voilà, tout le monde passe à côté parce que, bon, soit on n'a pas envie de voir, soit c'est trop... enfin, ça n'intéresse personne, tout simplement. Voilà, donc ça, il le montre bien dans un récit, certes très, très sombre, mais en même temps absolument passionnant. Voilà, sur la nature humaine qui, malheureusement, peut donner effectivement... des monstres. Donc, je vous conseille Mon ami Dahmer, Dirk Backderf, aux éditions Ça et là. Et je crois qu'il y a
une.
Il est à la bibliothèque. Oui, tout à fait. Je le repose dès demain. et vous pourrez l'emprunter. Eh bien, voilà. Alors, Anne-Catherine, on peut juste dire un mot de l'actualité. Catherine, je crois que tu prépares bientôt un salon.
Ah, mais ça fait presque un an que je le prépare. Ouais.
En fait, tu termines le salon du livre.
Que l'autre a déjà commencé.
Voilà. Bon, juste comme ça, deux minutes, Anne, est-ce que ça se passe bien tout,
Alors,
on en reparlera.
Je veux juste dire que le thème cette année, ce sera les contes. Donc, ça s'appelle Il était une fois.
Très bien.
Le parrain. Ouais. Benjamin Lacombe.
Quand même, exactement.
Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux dire.
Entre autres, il est connu par son personnage d'Alice. Mm-hmm. Mais alors, il a évidemment écrit plus de la BD entre guillemets pour enfants, mais tout le monde les lit. Mais il a aussi écrit pour adultes, puisqu'il a fait un Marie-Antoinette il n'y a pas si longtemps que ça.
D'accord.
Alors, il a un dessin extraordinaire, fabuleux. Bon. Et il nous prépare, qui va sortir très bientôt, un Magicien d'Oz.
Bon, formidable. Bon, de toute façon, je te réinviterai avec quelques-uns de tes camarades de salon pour venir parler du quatrième. Ouh là là, quatrième salon du livre jeunesse. Bon, c'est bien.
Un vieux salon.
Mais pas bientôt à la retraite, j'espère.
Ben non, mais j'ai décidé de la prendre à 80 ans. Hein. C'est décidé, c'est plus possible.
Pourtant, Aznavour avait 10 ans.
Oui, à son âme.
J'ai pas sa pêche quand même, là, je crois.
Bon, Anne, je vais te laisser retourner au rendez-vous de l'histoire, parce que je crois bien que t'es bien active. Hein,
pas tant que ça, mais quand enfin, même. Bon, je...
C'est un peu ton truc.
Je remplis les trous, d'abord, parce que les pauvres, en ce moment, c'est... C'est impressionnant de voir, c'est une ruche,
ça
monte, ça descend les escaliers, ça prend le téléphone, ça râle, bon, il faut bien y arriver et c'est dans trois jours.
Tu contribues
dernier avatar,
qu'est-ce qui se passe?
Eric Orsena, qui devait faire la conférence inaugurale de l'économie.
Il ne vient pas.
Ah ben, il part en Arménie avec le président.
On ne peut pas lutter.
C'est là que se trouve l'actualité.
Hein. Ouais.
Donc, c'est Jacques Attali qui va remplacer présenter.
On l'a entendu ce matin. Je me suis dit, tiens, il doit venir. Ouais. Ben oui.
Eh bien, il ne devait pas venir. Et alors, ce qui est amusant, c'est vraiment les chaises musicales, parce que l'année dernière, il nous a fait faux bond. Au dernier moment, il devait arriver le dimanche matin, et le dimanche à 9h, il a annoncé qu'il ne venait pas. Donc, quand même, il a accepté là de venir. Il a beaucoup de chance.
Ouais, no comment.
C'est super.
Voilà, et sans ça, il y a vraiment une atmosphère de fourmilière.
Oui.
C'est de la folie. Oui, c'est
mais ça a commencé au mois d'octobre l'année dernière. C'est la même chose.
Oui.
Ça ne peut pas être autrement parce que.
Eux, ils ont une équipe de pros quand même. Nous ne sommes que des amateurs bénévoles.
Il y a 351 intervenants, il y a 900 exposants. Il faut prévoir tout ça.
C'est énorme.
Et il y a même les rendez-vous de l'histoire à Saint-Gervais-la-Forêt. J'en suis fière.
Et pas seulement à Saint-Gervais-la-Forêt, quand même.
Vigneuil, La Chaussée, etc. Non, mais je défends.
Oui, je sais bien. Mais enfin, heureusement que je te recadre un peu.
Mais qu'est-ce que tu veux
Voilà.
Merci beaucoup à toutes les deux. On se retrouve le mois prochain. Vous pouvez retrouver Du vent dans les pages en podcast sur le site de studiozef.fr. Et très bonne écoute.